Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Semillas Latinas, cette traversée radiophonique mensuelle en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et ce soir, c'est Sylvie Argibet et Anaël Michel à la présentation de cette émission et nous poursuivons notre cycle en 3 épisodes sur l'émigration et les diasporas latino-américaines dans le monde.
Après un premier volet consacré aux mobilités entre l'Amérique latine et les États-Unis, on s'intéresse ce soir aux dynamiques migratoires internes à ce vaste espace latino-américain, ainsi qu'aux migrations intercontinentales reliant les différentes régions du sud global. Mais avant d'entamer ce sujet passionnant, commençons par un tour de l'actualité avec notre revue de presse.
Et on commence par le Costa Rica où la candidate conservatrice Laura Fernández a remporté le 1er février l'élection présidentielle dès le premier tour. La candidate du Parti du Peuple Souverain défend une ligne dure face à la montée de la criminalité, du narcotrafic et du taux d'homicide dans ce pays d'Amérique centrale. Se revendiquant libérale sur le plan économique et conservatrice sur le plan social, Laura Fernández souhaite achever la construction d'une méga-prison sur le modèle salvadorien, alourdir les peines et décréter l'état d'urgence dans les zones les plus touchées par la violence. Ses positions en matière de sécurité et de réforme institutionnelle sont perçues par l'opposition comme les signes d'une dérive autoritaire inspirée du président salvadorien Nayib Bukele, qui a d'ailleurs été l'un des premiers à la féliciter. Sa victoire renforce par ailleurs la dynamique de la droite en Amérique latine après ses avancées récentes au Chili, en Bolivie et au Honduras.
On poursuit au Venezuela où, depuis qu'un commando américain a capturé le président Nicolas Maduro le 3 janvier dernier, le régime se replie de façon inédite. Annoncé le 30 janvier par la présidente par intérim Delcy Rodríguez, une loi d'amnistie générale visant à libérer des prisonniers politiques marque un tournant historique. Cette initiative, qui couvre les 27 années de pouvoir chaviste depuis 1999, devrait conduire à la libération de centaines de détenus. Selon l'ONG Foro Penal, près de 400 prisonniers politiques ont déjà été libérés. L'annonce s'inscrit dans un contexte de réforme encouragé par Washington. Cette loi prévoit également de lever les mesures d'inéligibilité imposées à de nombreuses figures politiques, ce qui pourrait notamment profiter à la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, qui n'avait pas pu se présenter à la présidentielle de 2024. Celle qui a reçu le prix Nobel de la paix l'année dernière a remis sa médaille à Donald Trump le 15 janvier. Mais pour l'instant, les structures du chavisme restent en place car l'administration américaine semble compter sur les institutions pour éviter au pays de sombrer dans le chaos. Washington a d'ailleurs annoncé la fin de l'embargo pétrolier en vigueur depuis 2019 et Caracas a ouvert l'industrie pétrolière au secteur privé après 2 décennies de monopole public.
Et de son côté, Cuba fait face à une crise énergétique très sévère depuis la fin de l'approvisionnement en pétrole par le Venezuela et l'amplification des pressions américaines. Le gouvernement de Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à tout pays qui fournirait du pétrole à l'île. Sont notamment visés par ces menaces le Mexique. Pour faire face à cette grave pénurie de carburant, les autorités cubaines sont obligées de procéder à un rationnement et de réduire la voilure. Le gouvernement de Miguel Díaz-Canel a annoncé un paquet de mesures en ce sens, parmi lesquelles figure la réduction à 4 jours de la semaine de travail dans les administrations et les entreprises d'État, le télétravail, des restrictions à la vente de carburant, une réduction des services de bus et de train, ainsi que la fermeture temporaire de certains établissements touristiques. Les coupures d'électricité se multiplient et affectent gravement la vie quotidienne.
Et on clôt cette revue de presse par la superstar mondiale du reggaeton Benito Antonio Martinez Ocasio, plus connu sous le nom de Bad Bunny, qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Et pour cause, le chanteur portoricain, déjà ouvertement anti-Trump, a reçu le prix du meilleur album aux Grammy Awards et a profité de la cérémonie pour appeler de ses voeux le départ de l'ICE, la police de l'immigration qui sévit actuellement dans le pays. En janvier, deux citoyens américains, René Nicole Good et Alex Pretty, avaient été tués par des agents fédéraux à Minneapolis. Bad Bunny a scandé.
Ice out.
Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des êtres humains et nous sommes américains.
La star portoricaine a également animé la finale du championnat de football américain, le Super Bowl, qui s'est tenu le 8 février à Santa Clara. Bad Bunny a enflammé le dance floor d'une joie latina. Il a enchaîné ses principaux tubes en espagnol tout en célébrant la culture latino-américaine et particulièrement celle de Porto Rico. L'artiste a conclu son show en détournant le slogan « Que Dieu bénisse l'Amérique » usuel aux États-Unis pour en faire une gloire à tout le continent en énumérant tous les pays qui le composent. Et bien sûr, Donald Trump ne s'est pas privé d'exprimer son seum sur les réseaux sociaux, mais le soft power latino n'a pas fini de faire rager la sphère MAGA pour notre plus grand bonheur.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris. Un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Assez parlé des États-Unis, le moment est venu de passer à notre sujet du jour, les migrations sud-sud, que celles-ci s'inscrivent dans des dynamiques transrégionales, transnationales ou transcontinentales. Depuis les premiers temps de la colonisation, les circulations humaines, qu'elles soient choisies ou imposées, ont joué un rôle majeur dans la transformation des sociétés et des espaces latino-américains.
Véritable terre d'accueil, de nombreuses grandes villes d'Amérique latine ont attiré des populations venues d'horizons très divers. Leur histoire s'est construite au fil des vagues migratoires successives. Italiens, portugais, espagnols, russes, français, juifs et musulmans du Moyen-Orient, asiatiques mais aussi migrants latino-américains. Ces présences ont laissé des traces visibles dans l'espace urbain, des commerces au nom de rue jusqu'aux fêtes qui réinventent les traditions et folklore des pays d'origine. L'ensemble de ces migrations a donc contribué à façonner les paysages urbains et la construction des identités locales.
Penchons-nous plus spécifiquement sur les migrations intracontinentales. Comme l'analyse Patricia Martin dans son article « Crise migratoire en Amérique latine » paru en janvier 2025, l'augmentation de la production agricole d'exportation dès le début du XXe siècle a déclenché de vastes mouvements migratoires à l'échelle de la région. En Amérique centrale, par exemple, des Salvadoriens se sont installés en masse au Honduras voisin afin d'être employés dans les plantations de bananes exploitées par la United Fruit Company, tandis que des Nicaraguayens ont rejoint le Costa Rica pour travailler dans la culture de l'ananas. Plus au nord, un mouvement comparable s'est produit quand des Guatémaltèques ont afflué vers le Mexique, attirés par les plantations de café. Et dans les Caraïbes, enfin, de nombreux Haïtiens se sont rendus en République dominicaine, où ils ont été recrutés dans les champs de canne à sucre.
Et les inégalités structurelles, la pauvreté et la violence étaient à l'origine de ces dynamiques migratoires. Dans les pays d'accueil, les personnes migrantes représentaient une main-d'œuvre bon marché et étaient fréquemment victimes d'actes racistes, de conditions de travail extrêmement difficiles et de violations de droits humains massives. En ce sens, en octobre 1937, le dictateur de la République dominicaine, Rafael Trujillo, a ordonné le massacre du Persil dans les villes du nord-ouest du pays. Les immigrés haïtiens furent traqués puis tués à l'arme blanche par des soldats dominicains. À ce jour, l'État dominicain, ouvertement xénophobe et afrophobe, n'a toujours pas reconnu ce massacre qui a coûté la vie à plus de 20 000 Haïtiens.
Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les migrations régionales sud-sud ont progressivement été supplantées par les flux migratoires entre l'Amérique latine et les États-Unis. Aujourd'hui, bien que ce couloir migratoire septentrional reste le plus visible sur le plan géopolitique, un autre s'est progressivement développé en Amérique du Sud, qui relie la région andine au pays du cône sud. La restriction de l'immigration aux États-Unis et la mise en place de politiques de libre circulation des personnes, telles que le marché commun du Sud, couramment abrégé Mercosur, ont favorisé l'émergence de cet espace de mobilité.
Et en vrai, ça va même peut-être vous surprendre, mais entre 2015 et 2020, l'Amérique du Sud a accueilli beaucoup plus de personnes migrantes en provenance d'Amérique latine que les États-Unis.
C'est une destination privilégiée pour celles originaires des Caraïbes, c'est-à-dire de Cuba, d'Haïti et de la République dominicaine, bien que la migration vénézuélienne demeure à ce jour la plus importante.
Près de 8 millions de Vénézuéliens, soit 25% de la population, ont fui la dictature de Nicolas Maduro. L'exode amorcé sous Hugo Chavez s'est accéléré avec la crise économique, les sanctions des États-Unis et l'aggravation de l'autoritarisme politique.
La grande majorité des Vénézuéliens s'est installée dans la Colombie voisine, mais aussi au Pérou, au Chili, en Équateur ou au Brésil, tandis que celles et ceux qui en avaient les moyens ont rejoint les États-Unis ou l'Europe.
Outre l'exode vénézuélien qui impacte énormément les dynamiques migratoires actuelles en Amérique latine, on observe également l'arrivée croissante de personnes migrantes en provenance d'Afrique et d'Asie. La jungle du Darién, située entre la Colombie et le Panama, est l'une des routes migratoires les plus importantes, mais aussi les plus dangereuses du monde. Cet unique point de passage terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale est de plus en plus emprunté par des personnes en provenance d'Afrique et d'Asie.
À rebours de l'élargissement des droits des réfugiés qui s'amorçait en 1984, avec la déclaration de Carthagène, plusieurs pays d'Amérique latine restreignent désormais l'accès à leurs frontières. Les parcours migratoires s'en trouvent prolongés et complexifiés, multipliant les espaces de transit et d'attente qui fabriquent de facto des apatrides privés de citoyenneté effective et de sécurité élémentaire.
Cette réalité révèle une crise des droits humains et une atteinte profonde à la dignité des personnes en mouvement qui sont devenues les boucs émissaires des discours nationalistes, comme on va le voir ce soir.
C'est Mias Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et maintenant, place à l'interview avec Manon qui reçoit Lucie Laplace au micro de Semillas Latinas.
Lucie Laplace, bonjour. Vous êtes experte des politiques de gestion et d'accueil des migrations forcées en Amérique latine. Vous êtes doctorante à l'Université Lyon 2, mais aussi membre de l'Institut Convergence Migration et inspectrice à la Cour française du droit d'asile. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Parmi les questionnements que soulève ce cycle sur les migrations, il y a la notion de frontière que nous avons commencé à aborder avec la fiction sonore du mois dernier qui nous emmenait à la frontière mexicano-états-unienne. Ces frontières, qui se construisent au gré des populations qui les traversent, des politiques d'accueil nationales et des dynamiques géopolitiques, elles sont en fait davantage des espaces que des lignes. C'est-à-dire qu'elles restent poreuses, en dépit des murs, des prisons, des forces armées déployées autour ou des barrières physiques et naturelles qu'elles constituent. En préparant cette interview ensemble, nous avons constaté à quel point la notion et les représentations des frontières en Amérique du Sud ont profondément changé, avec un phénomène en particulier, l'exode de la population vénézuélienne. Cet exode, il est devenu massif depuis 2015, lorsque la crise politique, économique et sociale s'est intensifiée au Venezuela, et ce sont maintenant près de 8 millions de personnes sur les routes, comme le rappelait Sylvie un peu plus tôt. Il s'agit donc aujourd'hui du plus important déplacement transnational contemporain de l'histoire récente de l'Amérique latine, par son ampleur et sa dimension régionale, même si d'autres migrations importantes ont marqué le continent, comme les exilés cubains ou les déplacements liés au conflit armé colombien. Ce soir, nous aborderons donc ensemble les modalités de cet exode et de l'accueil de ces migrants, mais aussi l'impact qu'ils ont eu sur les politiques migratoires des pays sud-américains. Lucie Laplace, ce qu'on sait un peu moins, c'est que le Venezuela a longtemps été un pays d'immigration au XXe siècle, bénéficiant de la rente pétrolière et d'une relative stabilité régionale, et accueillant des Européens après la Seconde Guerre mondiale, des exilés latino-américains et plus tard des réfugiés colombiens. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2017 pour que les Vénézuéliens partent en masse ?
Alors, comme tu l'as très bien rappelé, ce qui est intéressant dans le cas vénézuélien, c'est que ça a été longtemps un pays d'accueil de populations donc extracontinentales européennes, mais aussi d'une population latino-américaine, parce que ça a été un pays qui a connu, alors c'est présenté souvent comme un âge d'or du pétrole. Et justement, ce qui se passe, on va dire à partir du début du 21e siècle au Venezuela, c'est un renversement avec un changement du solde migratoire à ce moment-là. Et on voit différentes générations en fait, de migrants avec des profils différents. Avant les années 2010, on observe un exil d'une élite qui est surtout composée de cadres de l'industrie pétrolière, de chefs d'entreprise, de hauts fonctionnaires et d'opposants politiques au régime d'Hugo Chavez, donc au pouvoir jusqu'à 2013-2014, jusqu'au moment de sa mort en fait. Ensuite, à partir de 2014-2016, on observe une migration des classes moyennes urbaines, des étudiants, des jeunes diplômés, des professionnels précarisés. Donc professionnels, c'est des personnes qui ont fait des études supérieures en général en Amérique latine. Et ces déplacements, ils vont devenir à ce moment-là régionaux, donc en Amérique du Sud principalement, et de proximité, alors que les migrations des élites allaient plutôt vers des pays du nord occidentaux, les États-Unis, l'Europe, notamment l'Espagne, l'Italie, pour certains le Canada, voilà. Donc à ce moment-là, voilà, la situation se dégrade, mais tout le monde n'a pas migré, ça reste quantitativement limité comme migration. À partir des années 2017-2018, c'est aussi là où on parle beaucoup plus des migrations vénézuéliennes, où on sent une pression qui s'accroît dans la région. On observe en fait un exode massif et en fait populaire de personnes qui vont être dans des situations précaires. Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'on observe à ce moment-là l'échec de mobilisation politique, donc qui provoque des grandes déceptions. Une fermeture autoritaire, c'est le moment où Nicolas Maduro est arrivé au pouvoir déjà depuis quelques années, et un effondrement sanitaire et alimentaire, donc avec l'accessibilité des médicaments qui pose problème, et des files pour faire la queue, pour utiliser ses coupons alimentaires et essayer d'avoir quelque chose à manger en fait, pour les classes populaires. Et à ce moment-là, en fait, ces migrations donc de classes populaires ne vont pas aller que dans les pays voisins, et notamment la Colombie, et les routes, elles vont s'allonger, parce que c'est une migration qui est quantitativement importante. Et ces migrations-là, elles vont se faire pour beaucoup en bus ou à pied, donc avec ce mot de caminantes qui porte sur les personnes qui vont en marchant, qui sont les plus pauvres, et qui vont parcourir des centaines et des milliers de kilomètres, mais pas d'un coup non plus. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont aller petit à petit dans un pays et puis ensuite éventuellement dans le pays suivant. Enfin, je pense Colombie, Équateur, Pérou, pour une question de moyens, en fait. Souvent, c'est des migrations qui vont être plus familiales aussi, avec des fois des jeunes enfants. Et donc, tout ça, ça provoque des changements importants dans la région parce que aujourd'hui, on est à quasiment 8 millions de migrants vénézuéliens, ce qui est considérable, dont 6,9, il me semble aujourd'hui, en Amérique du Sud.
Oui, ce sont en effet plus de 3 millions de Vénézuéliens donc en Colombie, 1,7 million au Pérou et aux alentours de 500 000 en Équateur et 500 000 au Chili. Est-ce que ces pays frontaliers et leur politique migratoire et d'accueil ont réussi à s'adapter au fur et à mesure de ces vagues et d'une crise qui est finalement devenue structurelle depuis 2017 ?
On s'est rendu compte d'une dégradation progressive de la situation au Venezuela et de l'augmentation du flux. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, même si c'est une augmentation qui s'est faite rapidement en l'espace d'un an et demi, deux ans. Pour autant, il faut se penser que la majorité de ces pays n'ont pas de système, par exemple, d'administration de l'asile importante. De manière générale, ces pays de la région vont en majorité choisir de mettre en place des visas ad hoc. Alors, au début, certains sont présentés comme humanitaires, et puis des fois, les noms changent au fur et à mesure que les décrets ministériels changent. Et c'est un choix politique, et c'est un choix qui est aussi lié à des enjeux diplomatiques de relations avec le Venezuela de Nicolas Maduro, choisissent une gestion de court terme avec des visas courts, en fait, dans l'espoir que les personnes puissent rentrer rapidement chez elles, et des régularisations qui vont devenir inégales dans le sens où c'est des visas qui peuvent avoir des durées. Alors, excepté la Colombie, parce qu'en Colombie, le visa temporaire est de 10 ans. Donc, c'est différent, mais en Équateur, au Pérou, au Chili, c'est des visas beaucoup plus courts, de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, mais qui ne sont pas forcément renouvelés rapidement. Donc, les personnes, quand leur visa est caduque, se retrouvent en situation migratoire irrégulière. Et le prochain visa peut mettre plus d'un an à advenir, en fait. Et donc, ces personnes alternent souvent des situations où elles sont en situation régulière, où elles ont un visa, voilà, sachant que ces visas ont un certain coût. Pour les familles, c'est donc moins accessible.
Peut-on dire que ces dispositifs ont en fait permis une régularisation massive, tout en produisant une gestion par à-coup qui maintient une certaine incertitude juridique ?
Complètement. Je pense que le point d'entrée sur ces visas comme choix politique et mécanisme, c'est d'abord la sécurité juridique limitée qui permette, contrairement au visa de réfugié qui a été choisi pour le coup par le Brésil, qui aurait été possible dans le cadre régional, donc avec la déclaration de Carthagène de 1984, qui a élargi la définition qu'on connaît des réfugiés en Europe, qui est la définition de Genève, notamment dans le cadre de graves atteintes aux droits humains, d'effondrement de l'ordre public, par exemple, qui a été mobilisé au Brésil, en l'occurrence, et qui était le parti pris de l'ONU, hein, qui incitait ces pays à choisir le visa de réfugié pour gérer ces personnes plus durablement. Cette garantie que représente le visa de réfugié de non-refoulement, bah, ce n'est pas le choix qui a été fait. Et ça permet donc aux États d'expulser des Vénézuéliens. Et je pense notamment à l'Équateur, au Pérou et surtout au Chili. On a des politiques d'expulsion, en fait. Sur le plan accès aux droits sociaux, aux droits à travailler, etc., ces visas donc ad hoc, hein, ces visas courts, ouvrent des droits. Souvent, on reste quand même dans l'économie informelle, hein, parce que c'est les populations paupérisées, etc., puis que les économies de ces pays restent quand même pas au mieux de leur forme. On va dire, le Covid étant aussi passé par là, ayant dégradé ces situations-là, les systèmes d'éducation sont ouverts. En général, il y a quand même l'éducation gratuite publique qui est accessible. Les systèmes de santé, en général, pareil, sont publics, gratuits, bon, c'est à minima, mais on est reçu. Pour autant, ces systèmes publics sont aussi traversés par des phénomènes de discrimination importants contre les personnes vénézuéliennes, contre les personnes racisées.
Vous parlez là des discriminations étatiques, institutionnelles que les Vénézuéliens rencontrent. On observe aussi une hausse de la xénophobie à leur encontre. Dans une enquête latino-barométro de 2023, corroborée par d'autres enquêtes sensibles et sondages, ce sont près de 4 Colombiens sur 5 qui ont déclaré que les migrants étaient nuisibles à leur pays. La majorité estimant que les immigrés, je cite, « prennent des emplois aux Colombiens et augmentent la criminalité ». Cette xénophobie, est-ce qu'elle peut être due à un phénomène de dumping social qui, je le précise, du coup, est une mise en concurrence par les employeurs dans le cadre de la mondialisation économique de travailleurs avec une main-d'œuvre moins bien payée venant d'autres pays, donc ici par exemple des Colombiens avec les Vénézuéliens.
Alors, je pense que cette compétition par le bas des classes populaires avec les migrants vénézuéliens qui viennent eux aussi des classes populaires traverse vraiment toutes les sociétés, tous les pays d'accueil de la région. Ces économies-là ne sont pas au mieux de leur forme. Et donc, on est sur une mise en concurrence de classes populaires dans le secteur de l'économie informelle en très large partie, où les employeurs ont tendance à payer beaucoup moins les personnes vénézuéliennes dans une logique de discrimination et d'exploitation des personnes les plus précaires à leur profit financier, en fait.
Et donc là, on parlait des politiques, des conditions d'accueil au niveau national, mais au niveau régional maintenant, on a assisté à des tentatives de coordination politique pour répondre à cette crise structurelle. Je pense notamment au processus de Quito, né en 2018 à l'initiative de l'Équateur. Est-ce qu'il s'agit d'une coordination assez forte et contraignante pour les pays de la région ? Et surtout, comment ces efforts ont été impactés par l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis le 3 janvier 2026, événement qui vient quand même un peu rebattre les cartes géopolitiques continentales ?
Alors, je pense que l'Équateur a essayé d'être ambitieux en 2018. À part un espace de discussion, ça n'a pas donné lieu à une coordination importante en termes d'alignement de politiques d'accueil, par exemple, ou de droits ouverts aux personnes vénézuéliennes. Mais si on fait un parallèle avec l'Europe, quand on voit la protection qui a pu être mise en place pour les Ukrainiens, on l'a fait à l'échelle de l'Europe. Après, le cadre européen est beaucoup plus développé, hein, mais il aurait pu se passer quelque chose comme ça. Ça n'a pas été le cas. Et finalement, maintenant, c'est un peu chacun de son côté. En fait, il n'y a pas eu le soutien, on va dire, en termes de financement internationaux, onusiens notamment, mais pas que, de coopération internationale attendue. Et c'est une grande déception. Et ça a provoqué aussi ce repli national-là. Après, derrière, il y a quand même des instruments de coordination, en tout cas d'harmonisation et de suivi collectif qui sont mis en place, et notamment via la plateforme onusienne qui s'appelle RV4, qui est donc consacrée à faire une sorte de monitoring de la situation des migrants vénézuéliens. Au-delà de l'accès aux services publics gratuits, basiques, minimal aussi, qui peut exister dans ces pays, le reste est comblé par les ONG et avec la dégradation des financements qu'elles ont vu au-delà du moment de crise humanitaire et avec ce qu'on connaît à l'échelle des Nations Unies, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis pour le mandat qu'il a commencé début 2025, ça a aussi atteint très très clairement les possibilités de financement de la gestion de ces populations au niveau national.
Et parlons peut-être du retour. Un projet de loi d'amnistie des prisonniers politiques a été soumis au Parlement vénézuélien cette semaine. Sylvie et Anaëlle nous en ont offert une vision d'ensemble au début d'émission. Et ce sont près de 400 prisonniers politiques qui ont été progressivement relâchés depuis le kidnapping de Maduro et l'investiture de Delcy Rodriguez, désormais présidente par intérim du Venezuela. Et ce qu'on observe dans ce contexte des retours massifs, faisant écho aux scènes de liesse très médiatisées de certaines diasporas vénézuéliennes, où ces dynamiques restent-elles en fait limitées et sélectives ?
C'était vraiment la grande question qui a beaucoup traversé la presse et qui a traversé aussi l'esprit des personnes vénézuéliennes, des personnes migrantes, de leurs familles aussi, en ce début d'année 2026. Parce que, en effet, le kidnapping de Maduro et donc cette question de que va-t-il se passer politiquement, est-ce que ça va provoquer une ouverture et des améliorations qui touchent directement aux causes de ces migrations. Pour autant, Delcy Rodriguez assure une forme de continuité du pouvoir. La situation économique n'a pas changé, même s'il y a des contrats pétroliers qui sont passés. Il faut le temps que tout ça prenne forme et il faut voir aussi à quel point ça redynamise tout un marché économique. Se pose la question de ce retour. Est-ce qu'il est par défaut parce qu'on n'a plus d'argent et que notamment la route en direction des États-Unis est complètement bouchée et ne fait plus envie? Il n'y a plus de rêve américain, en tout cas états-unien, on va dire. Quelles sont les conditions de ce retour? Est-ce qu'il est volontaire? Est-ce qu'il est sûr? C'est-à-dire que si on rentre par ses propres moyens, y a quand même des réseaux de trafic de migrants. On peut recevoir des pressions, notamment de groupes armés ou de groupes criminels, éventuellement enlever, subir des extorsions, etc. Donc ça reste quand même coûteux physiquement et financièrement. Il y a la question du retour digne, parce qu'une partie des personnes qui sont parties du Venezuela possèdent un logement. Quand on a abandonné sa maison, elle a été récupérée par les collectivos, c'est-à-dire ces groupes alliés du gouvernement Maduro qui opèrent dans de l'économie criminelle, dans de l'extorsion et dans de la répression aussi politique. Actuellement, le régime n'offre pas de garanties suffisantes en termes de sécurité, en termes d'emploi, en termes de stabilité, pour un retour important. Et les gens ont fait la fête en partie, mais pour autant, passer le moment d'euphorie, c'est pas pour ça qu'on se projette dans un retour.
Oui, en effet, trop d'incertitudes demeurent encore sur une réelle évolution démocratique du régime bolivarien et sur une amélioration significative de la situation économique. Car le gouvernement vénézuélien a ouvert le pétrole au secteur privé et donc à de nouveaux investisseurs. Mais en attendant, rien ne garantit que ces revenus seront redistribués de manière à garantir un accès minimum aux services basiques. Et puis par ailleurs, revenir signifie aussi traverser de nouveau des frontières. Et on sait que ce n'est pas une action anodine, parce que outre leur épuisement dont vous parliez un peu plus tôt, de ne pas réussir à trouver de refuge serein dans un endroit, les personnes migrantes ont aussi dû emprunter des routes dangereuses, des zones frontalières souvent militarisées, où sont constatées des violences sexistes et sexuelles, des disparitions d'enfants, des enrôlements dans des mafias ou des groupes paramilitaires, et qui amènent aujourd'hui certains pays à adopter des politiques frontalières sécuritaires assez répressives.
Les politiques sécuritaires ont tendance à précariser les personnes migrantes les plus populaires, celles qui ont le moins de ressources, et qui ont tendance donc à prendre, on va dire, ces chemins de traverse, et notamment ces routes secondaires qu'on appelle les trochas. Donc on peut être arrêté, donc on peut être expulsé, donc on peut être détenu, subir des mauvais traitements. Et je pense à ce passage du Darién, une sorte de forêt de mangrove, en fait, qui se situe entre la Colombie et le Panama, qui est contrôlé en tout cas en partie par un groupe paramilitaire, le clan del Golfo. Donc, c'est considéré comme une des routes les plus dangereuses après la Méditerranée dans le monde, qui crée le plus de morts. Le boom, c'est vraiment 2023. On a un demi-million de personnes qui prennent cette route en 2023, c'est énorme. dont 300 000 Vénézuéliens. Et puis, bon, bah, depuis actuellement un an, quand on va dire la perspective de migrer aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, c'est fermé, en fait. Cette opportunité s'est bouchée. Bah, les personnes n'empruntent plus cette route parce que ça n'a plus de sens. Par contre, on a observé, et ça c'est aussi préoccupant, hein, des flux de retour. Les gens reviennent et traversent une seconde fois l'enfer du Darien. En fait, ils sont épuisés. Et puis, bon, bah, le nombre d'options dans la région n'est pas illimité et les politiques d'accueil se réduisent petit à petit. Et juste pour finir peut-être sur ce point-là, en termes de perspective, l'été dernier, l'Équateur a clos le dernier type de visa temporaire qui existait pour les Vénézuéliens. Ça pose des questions énormes sur la perspective de qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains mois au Venezuela et à quel point les personnes souhaitent réellement rentrer ou juste sont dans des situations extrêmement compliquées à gérer.
Oui, en effet, une situation à suivre de près donc, et notamment avec les prochaines élections législatives au Pérou, en Colombie et au Brésil, qui vont sûrement être assez impactantes en termes de politique migratoire. Et c'est la fin de cette interview. Merci Lucie Laplace d'être venue au micro de Semillas Latinas et de nous avoir partagé votre vision et expertise de la situation des migrants vénézuéliens. Je vous rappelle que vous êtes donc doctorante à l'Université Lyon 2 sur les migrations forcées en Amérique latine, notamment colombienne et vénézuélienne, mais aussi membre de l'Institut Convergence Migration et inspectrice à la Cour française du droit d'asile. Bonne soirée.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco.
C'était Movimiento du musicien et compositeur uruguayen Jorge Drexler, chez qui la relativité et l'insignifiance des nationalités comme des frontières comptent parmi les thèmes de prédilection.
C'est Millas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et lorsqu'on évoque le thème des migrations, le grand oublié est souvent l'épineux sujet des déplacements forcés internes, c'est-à-dire les mouvements de personnes à l'intérieur des frontières nationales, causés par des conflits armés, des violences ou des crises climatiques. Ce soir, Sylvie, tu vas analyser les mobilités forcées internes à deux pays, la Colombie et Haïti, deux États marqués par un contexte sécuritaire particulièrement critique.
Nous vous avions parlé il y a déjà plus d'un an des défis liés à la construction de la paix en Colombie. Le pays est profondément marqué par un conflit armé dont l'origine remonte aux années 60, puisant ses racines dans les inégalités structurelles du pays et qui se poursuit encore aujourd'hui entre l'État colombien et différents groupes armés tels que les dissidences des FARC, les Forces armées révolutionnaires de la Colombie ou l'ELN, l'Armée de libération nationale, les groupes groupes paramilitaires ou encore les bandes criminelles qui sévissent dans le pays. Cette guerre a provoqué des déplacements forcés de population. D'après les chiffres de la Commission de la vérité en Colombie, près de 8 millions de personnes ont été victimes de ce fléau. La Colombie est aujourd'hui le deuxième pays du monde avec le plus de déplacements forcés liés à des conflits juste après la Syrie. Les communautés paysannes, indigènes et afrodescendantes sont les principales victimes de cette violence. Très souvent originaires de zones rurales, l'expérience de mobilité forcée provoque une perte d'un élément fondamental de leur identité et existence, la terre. Dans la grande majorité des cas, les populations contraintes de fuir leur lieu de résidence décident de s'installer dans les grandes villes du pays comme Bogota, Medellín ou encore Santa Marta. Le déplacement vers des zones urbaines entraîne une perte du lien social, mais également des droits culturels et économiques. Le Catatumbo, région frontalière avec le Venezuela, est le département le plus touché par les déplacements forcés. En 2024, 64 000 personnes ont dû migrer de force. Dans ce territoire sévissent différents groupes rebelles qui s'affrontent pour avoir le contrôle sur l'économie du narcotrafic souterraine et illégal. Les victimes de cette pratique de guerre n'ont pas le statut de réfugiés et pour cause, les trajectoires migratoires qu'elles suivent ne les conduisent pas à traverser les frontières internationales. Cette condition invalide donc l'application du protocole relatif au statut de réfugié de l'ONU.
Et l'autre pays dont tu voulais nous parler ce soir, Sylvie, est très souvent invisibilisé par les médias. Il s'agit de la République d'Haïti, état des Grandes Antilles, aujourd'hui au bord de l'effondrement. Confrontées à la violence des gangs, les populations fuient massivement leurs quartiers et leurs territoires.
En Haïti, le territoire est également brisé par les mobilités forcées. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, le pays s'est enfoncé dans une grave crise humanitaire, politique et sécuritaire. L'agglomération de Port-au-Prince, contrôlée à plus de 80% par des gangs armés, est devenue l'épicentre de cette tragédie. Dans la capitale, les populations subissent depuis de nombreuses années la violence des bandes criminelles qui commettent meurtres, viols, pillages et enlèvements. La situation s'est même aggravée depuis 2024, quand le premier ministre de l'époque, Ariel Henry, a été poussé à la démission par ses groupes armés. Celui-ci a cédé la place à de nombreux dirigeants de transition censés rétablir l'ordre et organiser de nouvelles élections. Dans ce cadre de violence généralisée, le corps des femmes est vu comme un territoire à conquérir. Le viol des femmes et des filles est utilisé comme une arme de guerre par les gangs pour terroriser la population. Certaines victimes sont même agressées devant leurs parents, conjoints et enfants, un acte d'humiliation finale. La terreur semée par les gangs a provoqué le déplacement de plus d'1,4 million de personnes. La grande majorité de la population fuit vers les provinces du pays. La région du Grand Sud accueille à elle seule 45% des personnes déplacées. De nombreuses victimes de mobilité forcée trouvent refuge auprès de leur famille. Les conditions de vie y sont souvent très difficiles. La majorité des ménages d'accueil font état de difficultés importantes et luttent chaque jour pour pouvoir se nourrir. La mission multinationale d'appui à la sécurité, pilotée par le Kenya et mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU, a été déployée progressivement en Haïti à partir de juin 2024. Cette force n'a cependant pas pu enrayer cette flambée de la violence. Elle fait par ailleurs l'objet de nombreuses critiques de la part de la société civile haïtienne qui dénonce une nouvelle ingérence étrangère.
Un grand merci Sylvie pour ce décryptage. Et tout de suite, la chronique cinéma de Pauline, qui s'est penchée sur la manière dont les réalisateurs et réalisatrices ont porté à l'écran les migrations en Amérique latine.
Bonsoir Naël. Oui, le cinéma, parce que le cinéma permet de montrer ce que les analyses ne révèlent pas toujours. Les visages, les hésitations, les moments de doute. À la différence des chiffres qui quantifient les départs et les arrivées, les films s'attardent sur les parcours individuels. Sur grand écran, on ne parle pas de flux, on rencontre un personnage dans un contexte précis, on perçoit d'où il vient, ce qu'il laisse derrière lui et les obstacles traversés. Depuis une vingtaine d'années, de nombreux réalisateurs ont exploré ces trajectoires individuelles, qui ont pour cadre le territoire latino-américain en mettant en lumière les conditions et les motifs du départ, qu'il s'agisse de violence, de précarité ou d'instabilité politique.
Je sais pourquoi vous voulez faire ce voyage, mais Todavía no sé por qué yo tengo que hacerlo.
Aquí no hay nada para vos, Aira. Nada.
Si no hay migra, estaremos hasta acá en 2 semanas.
Amara. Vamos a hacer un viaje a Tonalá. Solo vos, Esmael y yo.
Dans Signes nombrés, en français sans nom, thriller américano-mexicain sorti en 2009, Kari Fukunaga nous emmène au sud du Mexique, dans le Chiapas, jusqu'à la frontière nord en suivant les migrants honduriens et guatémaltèques accrochés au wagon de la Bestia. Ce train de marchandises devenu tristement célèbre pour le nombre de personnes qu'il convoie. Le film montre la brutalité du trajet, la menace permanente des gangs, mais aussi les formes d'entraide qui apparaissent dans des situations extrêmes. On retrouve cette même force dans le film Rêve d'or, sorti en 2013, de réalisateur hispano-mexicain Diego Comanda Díez, qui met en scène 3 adolescents guatémaltèques rêvant des États-Unis et avançant coûte que coûte. Sur le chemin vers l'Eldorado américain, il rencontre Chauk, un jeune Indien du Chiapas. Et le choix de recourir à des acteurs non professionnels donne au film une impression de réalité très forte, presque documentaire. Mais à côté des parcours migratoires en eux-mêmes, il y a tout un éventail de sujets qui sont portés à l'écran et les films documentaires ne sont pas en reste.
Por favor, pide su ayuda para localizar al joven nicaragüense Fabricio Antonio Valle. Se perdió en el desierto de Arizona.
Águilas del desierto, ayúdennos a buscar a Samuel Alejandro Jiménez de Guatemala. Por favor, ayúdennos a
Le court-métrage Aguilas, Aigle en français, réalisé par Cristi Guevara Flamangan et Maite Zubiare, suit les bénévoles de l'ONG Aguilas del Desierto. Chaque mois, ces personnes, ouvriers du bâtiment, jardiniers ou employés domestiques, parcourent le désert de Sonora pour retrouver les migrants perdus ou disparus sur la route vers les États-Unis, notamment au Texas ou en Arizona. Ces bénévoles partent à la recherche des corps des personnes signalées disparues par leurs proches, parfois à des milliers de kilomètres, dans un territoire devenu un immense cimetière à ciel ouvert. Le long métrage Spare My Bones, Coyote, du réalisateur canadien Jonah Malak, prolonge ce même récit, notamment en donnant voix à des personnes qui traversent le désert et que celui-ci semble vouloir effacer. Ces films montrent que la migration peut coûter la vie et que le 7e art peut redonner un visage humain à une crise trop souvent réduite à des statistiques. Dans la fiction, comme dans le documentaire, le parcours vers le nord reste l'un des motifs les plus récurrents du cinéma. Toutefois, d'autres modalités au sein du continent ont aussi attiré l'attention des réalisateurs et producteurs, mettant en scène des trajectoires longtemps reléguées dans l'ombre. Le film « La Frontera » de la réalisatrice Juliana Peñalada Lofus, sorti en 2020, s'intéresse par exemple au déplacement des Vénézuéliens vers la Colombie et plus précisément vers Cúcuta, sa ville natale. Le documentaire souffle sur la tentative d'acheminement d'aide humanitaire en 2019 à la frontière et la réalisatrice suit des familles qui fuient la crise politique et économique, traversant ponts, checkpoints et routes périlleuses, souvent à pied. Là encore, le film rappelle que l'immigration ne se limite pas au franchissement d'une ligne frontière, malgré ce que suggère le titre. C'est un parcours semé d'embûches et ce sont des vies suspendues entre départ et arrivée, des récits d'entraide et de solidarité. Plus récemment, un film a montré combien les récits de mobilité latino-américaine ont un écho planétaire, notamment lorsque les départs contraints sont dus à des combats politiques, comme le film « L'agent secret » du réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho, sorti en 2025. Présenté comme un thriller politique, il explore les persécutions visant des individus jugés indésirables par le régime en place. Le cinéma prolonge ainsi le travail des historiens et des politologues en incarnant leurs analyses dans des situations concrètes. Pour évoquer un exemple emblématique, dans le film « No » de Pablo Larraín, sorti en 2012, la mise en scène du Chili de la fin de la dictature met en évidence l'ampleur des exils et des fractures engendrées par l'histoire récente et parfois tragique du Côte Sud. Tous ces films soulignent que derrière chaque mouvement se trouvent des trajectoires singulières. Si le cinéma n'apporte pas de réponse aux crises, il a le pouvoir de rendre ses parcours visibles et d'éclairer les motivations qui poussent les individus à partir, parfois au péril de leur vie.
Merci beaucoup pour ce riche panorama, Pauline, et ses recommandations pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin. Tout de suite, un intermède musical très politique.
nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía, levantarlos para decir llevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Vous êtes toujours sur le 93.9 FM et nous venons d'écouter Somos Sur de l'artiste chilienne Ana Tijoux en collaboration avec la rappeuse palestinienne Shadia Mansour, un hymne à la solidarité et à la résistance des peuples du Sud. Leur chanson dénonce l'intervention étrangère états-unienne en Amérique latine et au Moyen-Orient.
Semillas Latinas. Une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Et maintenant, Anaëlle, tu vas nous parler des migrations transcontinentales sud-sud en te focalisant sur la présence africaine en Amérique latine.
Les migrations africaines constituent en effet un élément fondamental de l'histoire latino-américaine, cet espace de circulation qui s'étend de la Patagonie aux confins du désert de Sonora. À partir du XVIe siècle, la traite atlantique a déplacé de force plus de 12 millions de personnes réduites en esclavage afin de satisfaire l'inépuisable demande de main-d'œuvre nécessaire à l'exploitation des mines du territoire américain et à l'économie de plantation, deux piliers du système colonial. Les migrations africaines se sont poursuivies au XIXe et XXe siècle en lien avec les activités économiques. Tant et si bien que les dynamiques migratoires Afrique-Amérique latine ont profondément façonné les sociétés du continent. Les populations afrodescendantes ont activement participé à la construction du tissu social, culturel, urbain et économique qui façonne les États que nous connaissons. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Les migrations africaines continuent d'occuper une place déterminante dans la reconfiguration des dynamiques migratoires en Amérique latine, et ce malgré leur faible visibilité dans les statistiques officielles. Comme le soulignent les chercheurs Navarro Alvarado, Espiro et Minviel dans l'article « L'Afrique en Amérique latine aujourd'hui, migrations hétérogènes et insertion précaire » paru dans les Cahiers des Amériques latines en 2024, il est important de catégoriser, définir et nommer les migrations africaines de façon plus fine que par le recours au terme fourre-tout « africanos » pour mieux comprendre ce phénomène. Cette tendance à la généralisation est héritière de concepts forgés à l'époque coloniale, malgré la présence de 35 nationalités africaines circulant en Amérique latine. Ces groupes sont issus de presque toutes les sous-régions du continent africain et se caractérisent par une grande diversité sociale, culturelle, politique et économique. D'ailleurs, au-delà de leur multipolarité, depuis trois décennies, les trajectoires migratoires des personnes d'origine africaine sont marquées par une complexité croissante. Leur géographie s'adapte aux reconfigurations globales contemporaines, caractérisées par des politiques anti-immigration de plus en plus coercitives, qui transforment progressivement certains lieux en espaces de passage obligés ou de blocage pour les personnes migrantes. La multiplication des étapes des parcours migratoires est un des effets collatéraux de l'érection de forteresses dans les pays du Nord, en Amérique comme en Europe d'ailleurs. Forteresses qui se renforcent et qui paradoxalement se déplacent à travers l'externalisation des contrôles migratoires et des procédures d'asile vers d'autres pays, comme le Mexique pour les États-Unis. Du coup, certains pays d'Amérique latine remplissent une fonction de transit, tandis que d'autres endossent le rôle de pays tampon en favorisant la mise en place de centres de tri et d'autres dispositifs destinés à contenir les indésirables.
Maro, panga, maro.
En Amérique centrale, des pays comme le Panama et le Costa Rica, dont les systèmes de gestion migratoire étaient autrefois axés sur l'accueil des migrants, sont progressivement devenus des zones dédiées à la gestion et au contrôle des migrations en général, africaines en particulier. Cette présence africaine a aussi un impact sur les dimensions du corridor migratoire centra-américain. Dans le cas particulier du Mexique, historiquement perçu comme un pays de transit et d'émigration, la présence d'Africains a entraîné la mise en place de nouveaux dispositifs de contrôle, notamment par l'attribution du statut de réfugié, fréquemment imposé aux personnes sans leur consentement. Cet ensemble de mesures répressives se concentre principalement dans les villes frontalières, comme Tapachula et Tijuana, devenues des espaces de repli pour des personnes dont les trajectoires sont bloquées. À l'inverse, au début du XXIe siècle, des pays comme l'Équateur et le Brésil se sont progressivement affirmés comme de nouvelles portes d'entrée sur le continent latino-américain. En Équateur, durant les mandats de Rafael Correa de 2007 à 2017, l'adoption de la Constitution de Montecristi a marqué un tournant symbolique. Celle-ci consacrait des principes ambitieux tels que la citoyenneté universelle, la libre circulation et l'interdiction de considérer une personne comme illégale en raison de son statut migratoire. Si ces dispositions ont suscité un fort espoir parmi les défenseurs des droits des migrants, leur mise en œuvre s'est heurtée à de nombreuses contradictions juridiques et administratives. Au Brésil, sous l'impulsion des gouvernements du Parti des travailleurs, le renforcement des liens diplomatiques et économiques avec l'Afrique dans les années 2000, matérialisé par de nouveaux accords de coopération et par l'ouverture d'ambassades sur le continent africain, a également contribué à repositionner le pays dans les trajectoires migratoires. Ces relais diplomatiques ont servi de point d'appui à de nombreux candidats à l'émigration pour solliciter et parfois obtenir un visa brésilien. Ces mobilités reposent souvent sur des réseaux solidement organisés, comme celui des Sénégalais affiliés à la confrérie Mouride. Structuré autour de solidarités religieuses, familiales et communautaires, ce réseau migratoire s'est progressivement étendu du Sénégal jusqu'à l'Argentine, en passant par plusieurs points d'appui au Brésil. Dans ce contexte, les grandes métropoles latino-américaines jouent un rôle central d'accueil et d'ancrage pour les personnes migrantes qui transforment ces paysages urbains. Certains quartiers se muent en véritables places commerciales où circulent à la fois marchandises, opportunités économiques et informations. Ces espaces constituent des ressources stratégiques dans les trajectoires migratoires en facilitant l'accès au logement, au travail, à la consommation et à l'élargissement du capital social. Le quartier d'Once, à Buenos Aires, surnommé la « Petite Dakar », illustre bien cette dynamique. S'il fonctionne actuellement comme un pôle d'attraction pour les migrants africains, ce quartier est historiquement une véritable tour de Babel. C'était d'abord le repère de la communauté juive, mais il compte aussi de nombreux supermarchés chinois et coréens, ainsi que la présence de vendeurs paraguayens aux côtés des Sénégalais. La forte visibilité de ces commerçants dans les centres urbains et leur rôle dans une économie informelle globalisée ne reflètent toutefois qu'une partie de la réalité migratoire africaine qui se caractérise, on l'a dit, par une grande diversité de nationalités, de profils, de stratégies résidentielles et de parcours professionnels. D'ailleurs, les réseaux migratoires apparaissent comme essentiels pour surmonter les obstacles structurels et la discrimination auxquels les migrants se heurtent sur le marché de l'emploi. La vie de bon nombre de migrants africains reste marquée par l'absence de titre de séjour qui les oblige à accepter des emplois précaires et les expose à l'exploitation, ce qui perpétue un cycle d'inégalité et d'exclusion. L'absence de mobilité sociale a contribué à l'apparition et au développement de nouvelles routes migratoires vers le nord, de véritables périples conçus pour déjouer les dispositifs de contrôle qui obligent les migrants à franchir des territoires extrêmement périlleux, comme l'Amazonie ou le Rio Grande entre le Mexique et les États-Unis, en passant par la jungle du Darién entre la Colombie et le Panama.
Il y a des crocodiles et qu'on va voir des morts sur la route.
Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera au Darién. C'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient.
Les flux migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne sont aujourd'hui un sujet récurrent dans les débats politiques du continent. Et pour conclure cette chronique, je tiens à souligner l'ampleur des violences raciales dont ces populations sont victimes. En mars 2016, l'assassinat de Massar Ba, figure emblématique de la communauté sénégalaise en Argentine, a provoqué une profonde indignation. Ce leader respecté était engagé au sein d'organisations comme la Casa de África, l'association des résidents sénégalais en Argentine. Ce collectif a d'ailleurs organisé de nombreuses marches et manifestations à Buenos Aires pour dénoncer la violence raciste et institutionnelle et revendiquer la reconnaissance de droits longtemps refusés aux Africains. Quelques années plus tard, c'est la tragédie de Moïse Kabagambe, jeune Congolais battu à mort en janvier 2022 à Copacabana pour avoir réclamé son salaire, qui a provoqué une onde de choc.
Essas imagens do Rio de Janeiro e de São Paulo são um grito por justiça.
Dans un contexte brésilien marqué par des inégalités sociales et raciales héritées de l'esclavage, les personnes racisées sont exposées à la violence et confinées aux emplois les plus précaires, pénibles et dangereux. Ce crime s'inscrivait dans un contexte de stigmatisation des migrants, des populations noires et des minorités, avec l'ascension de Jair Bolsonaro, qui, dès sa campagne de 2018, qualifiait de « déchets du monde », je cite, « les immigrés haïtiens, sénégalais, boliviens, iraniens et syriens », avant de soutenir Donald Trump et son obsession pour la construction de murs. La mort de Moïse Kabagambe a déclenché, là encore, une mobilisation massive contre le racisme et les discriminations, et des collectifs de migrants, des mouvements afro-brésiliens ainsi que des ONG se sont unis pour réclamer justice et sensibiliser l'opinion publique. Des travailleurs précaires des périphéries de São Paulo et de Rio ont rejoint le mouvement sous la bannière « Les vies noires comptent » en écho au mouvement « Black Lives Matter » né en 2013 aux États-Unis. Et des rassemblements internationaux à Paris, à Londres ou à Luanda ont amplifié la pression pour des politiques antiracistes et pour le respect des droits des migrants, qui incluraient la reconnaissance de leurs diplômes, le droit de vote et la garantie de tous les droits liés au statut de réfugié.
Merci beaucoup Anaëlle pour ton éclairage sur les liens politico-culturels entre l'Afrique et l'Amérique latine. Et on laisse désormais l'antenne à Astrée qui nous emmène à la découverte de Yemanja, déesse née aux confins des fleuves nigériens qui a trouvé son nouveau foyer sur les côtes nord-estines du Brésil.
Entendez-vous ces célébrations au loin ? Ce sont celles du culte de Yemanja qui ont lieu le 2 février, majoritairement au Brésil, dans les communautés afro-brésiliennes, mais également dans d'autres pays d'Amérique latine. On la retrouve partout, en statuette, sur des peintures murales, sur des objets dérivés, mais avant tout dans les chants et les contes comme ceux du groupe Olodum, Dolival Caymmi, Clara Nunes et Maria Bethania, qui chantent ses louanges dans de délicieuses mélodies. Dans Mar Morto, son récit magnifique sur les marins de la côte brésilienne, l'écrivain Jorge Amado nous révèle ses multiples appellations. Janaína, Inae, Isis, Macunha, Seleia do Mar, Rainha do Mar, etc. Mais Yemanja, son prénom, vient de la langue Yoruba, Yeye, Oma et Ja, qui signifie « mère dont les enfants sont des poissons ». Et oui, car cette déesse qui traverse les mers portée par les courants et les vagues est arrivée sur les côtes brésiliennes avec les croyances des populations esclavagisées en provenance du Nigeria. Quand la traite atlantique imposa violemment l'arrivée de flux de populations africaines en Amérique, le but était l'annihilation totale. Mais comme on ne peut pas esclavager la pensée, ces hommes et ces femmes firent perdurer leurs croyances issues de la culture Yoruba du Nigeria. Sauf qu'une transformation s'opère. Là-bas, Yemanja était vénérée aux abords des eaux douces. Elle était considérée comme la reine des rivières. Mais en traversant l'Atlantique, dans les cales des navires négriers, Yemanja est devenue la déesse de la mer, de l'océan. Cette transformation symbolise le voyage forcé lui-même. L'eau douce devient salée, la rivière devient océan. On appelle ces croyances le Condomblé et l'Ubanda. des religions afro-brésiliennes qui vénèrent des divinités, les orishas. Ces pratiques rituelles ont longtemps été prohibées, jusqu'en 1951, du fait de la répression gouvernementale et de la criminalisation des cultes afro-brésiliens. Mais la fête la plus spectaculaire a lieu le 2 février, à Salvador de Bahia, dans le quartier de Rio Vermelho. C'est là qu'historiquement accostaient les bateaux venus d'Afrique, chargés de main-d'œuvre réduite en esclavage. Et c'est donc là, sur les rives de l'océan, que le candomblé a pris racine. La tradition a commencé en 1923. Après une terrible période de pénurie de poissons, les pêcheurs se sont réunis pour faire une offrande à Iemanjá, lui demandant d'avoir pitié de leur accorder une mer calme et beaucoup de poissons. Iemanjá est célébré par les marins qui la craignent autant qu'ils l'aiment. Il n'y a pas plus grand honneur que de s'abandonner aux bras de la plus belle des amantes. Et les femmes des marins lui demandent protection pour leur bien-aimé. Elles redoutent le jour où la reine des mers leur reprendra leur amour le plus cher. Il est dit qu'elle vogue à travers le monde. Elle parcourt toutes les mers et ses cheveux flottent dans la houle. Mais il y a quelque chose de troublant. Aujourd'hui, cette déesse noire à l'origine se voit de plus en plus représentée par une femme blanche ou métisse, portant un voile blanc et une robe bleue. Et cette silhouette maternelle vous rappelle peut-être quelque chose. Et oui, Iemanjá est représentée à l'image de la Vierge Marie. Pendant la période de l'esclavage et pour maintenir leur culte, il était fréquent que les Africains et leurs descendants aient recours à des figures du catholicisme. Leurs maîtres blancs et les religieux catholiques leur interdisaient de maintenir leurs croyances. Si bien qu'ils ont trouvé un moyen de continuer en déguisant leur divinité. Iemanjá a ainsi été associée à diverses dénominations de la Vierge comme Nossa Senhora da Conceição ou Nossa Senhora das Candeias. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le 2 février est à la fois le jour de Iemanjá et celui de Notre-Dame des Candeias. Le processus de syncrétisme reste perçu comme un phénomène de domination, une stratégie de survie face à l'oppression coloniale qui a effacé une partie de l'identité originelle africaine de Iemanjá. Et si j'ai choisi de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai longtemps été fascinée par cette divinité mystique, la reine des mers, la mère de l'humanité, qui représente aussi la richesse des mobilités, ici forcées, opérant dans le sud global depuis des siècles. Ces territoires que l'on pense opposés mais qui partagent des cultures, des luttes et des revendications bien plus proches qu'on ne l'imagine.
Et merci Astrée pour cette chronique.
C'est déjà la fin de cet épisode consacré aux dynamiques migratoires internes à la région latino-américaine et aux migrations intercontinentales qui relient les différentes régions du sud global. On espère que cette émission vous a plu et intéressé.
Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'œuvre photographique du photojournaliste colombien Federico Rios qui s'intéresse aux migrations, aux conflits armés et à la relation entre la société et l'environnement en Amérique latine. Dans sa série « Les chemins de l'espoir désespéré », il documente les destinées des personnes en mobilité qui cherchent à traverser l'une des routes migratoires les plus importantes, mais aussi les plus dangereuses du monde, la jungle du Darién.
Merci à toutes les coproductrices de l'émission et merci à notre invitée spéciale Lucie Laplace. On se retrouve le mois prochain pour le troisième et dernier épisode de ce cycle consacré aux migrations et aux diasporas latino-américaines dans le monde.
Excellente soirée sur Radio Campus Paris.